Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour ce dernier numéro des paroles aux éditeurs des fêtes d'Andrébi, 20 juillet 2012, consacré à la lutte contre la malnutrition. D'après les résultats définitifs de l'enquête par grâce à indicateurs multiples 2010 pour la ville de Kinshasa, présenté le mercredi 17 juillet courant, 19% d'enfants de moins de 5 ans à Kinshasa connaissent un retard de croissance dû à la malnutrition, alors qu'au niveau national, ce taux est de 43%. Que proposez-vous pour lutter efficacement contre la malnutrition? Nous en parlons avec Narcisse Kimbondo, nutritionniste au programme national de nutrition Pronanut. Vous avez des réactions, propositions et points de vue, appelez-nous au 081-890-43-39, mais aussi déposez votre commentaire sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. J.R. Lundembo, Titi Mputu, Jean-Noël Mokondo réalisent cette émission, supervisée par Nicole Ngaka et Pierrot Elamis au micro pour la présentation. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs. Par internet, ca@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot Elamis.
Notons que selon cette enquête réalisée par l'Institut national des statistiques sous la tutelle du ministère du Plan avec l'appui de l'UNICEF, UNFPA, PAM et USAID, la malnutrition est associée à plus de la moitié des décès d'enfants dans le monde. Les enfants en état de malnutrition ont plus de chances de mourir des maladies courantes de l'enfance et ceux qui survivent souffrent de maladies répétées et de retard de croissance. Et nous en parlons avec vous. Ce que vous pensez de tout cela, votre point de vue, réaction, c'est dans votre milieu par rapport à la malnutrition, mais nous avons associé à cet échange M. Narcisse Kimbondo, qui est nutritionniste au programme national de nutrition. Monsieur Kimbondo, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Et merci d'avoir accepté notre invitation pour partager avec les auditeurs de Radio Capi les préoccupations par rapport à la malnutrition. Bien avant d'aller plus loin, quelques petites questions d'ordre de considération générale. Vous qui êtes spécialiste, quand on parle de la malnutrition, qu'est-ce qu'un auditeur peut retenir par rapport à la malnutrition? C'est quoi au juste la malnutrition?
Merci beaucoup pour la question. Lorsqu'on parle de la malnutrition, on doit savoir que dans la malnutrition, nous avons deux entités. Mm-hmm. Nous avons la surnutrition et la sous-nutrition. Et la surnutrition, c'est ce qu'on appelle communément l'obésité ou bien la surcharge pondérale. Mm-hmm. Et la sous-nutrition, c'est ce que nous appelons malnutrition par carence. Donc, c'est en fait, c'est le faible apport alimentaire dans l'organisme. Et par rapport à la malnutrition, qui est la sous-nutrition, nous avons la malnutrition aiguë, nous avons la malnutrition chronique, et puis nous avons l'insuffisance pondérale. Et nous pouvons aussi ajouter la malnutrition par carence en micronutriments. Alors, en ce qui nous concerne ici, dans cette étude, mm-hmm. on a parlé de la malnutrition chronique, qui est aussi appelée retard de croissance. Alors, cette malnutrition chronique, en fait, se caractérise par une petite taille par rapport à l'âge. Mm-hmm. Ça, c'est la malnutrition chronique. Et cette malnutrition, en tout cas, ça dure dans les temps. Donc, un individu peut survivre avec sa malnutrition durant toute sa vie. Mais nous allons voir que la malnutrition chronique est irréversible. C'est-à-dire, elle provoque des séquelles qu'on ne peut même pas guérir.
Et quand on parle de la taille et le poids, cela veut dire, par exemple, je peux prendre un exemple au hasard. Supposons qu'un enfant de 2 ans, qui pouvait peut-être peser 13 kilos, je prends un exemple, et cet enfant en a 9, 8, quelque chose comme ça, il n'y a pas un équilibre entre son âge et son poids d'une manière normale.
Non, c'est-à-dire qu'il y a ceci. Et quand vous prenez un groupe d'enfants, ces enfants ont des tailles bien déterminées s'ils sont bien nourris par rapport à leur âge. Alors, si un enfant qui a, par exemple, je donne un exemple, qui a 80 cm, et que cet enfant, s'il était bien nourri avec son âge, doit avoir cette taille-là, et que si on mesure la taille de cet enfant, on trouve que l'enfant a 65 cm au lieu de 80. Donc, c'est un retard de croissance. Parce qu'en principe, l'enfant ne devait pas avoir cette taille s'il était bien nourri. Donc, c'est ça, la petite taille par rapport à l'âge. Mais si on prend le faible poids par rapport à la taille, là, ça devient la malnutrition aiguë. Or, ici, nous parlons de la malnutrition chronique. Mais si je voulais faire la différence entre la malnutrition chronique et la malnutrition aiguë, la malnutrition aiguë, c'est une malnutrition qui est récente. Donc, c'est une détérioration brutale de l'état nutritionnel. Donc, c'est un peu ça la différence. Et la malnutrition aiguë, en fait, cette malnutrition, le risque de mortalité est très élevé. Mais par contre, la malnutrition chronique, la personne peut vivre avec sa malnutrition pendant toute sa vie. Mais seulement, cette personne ne sera pas utile pour les pays, pour le développement, parce que la malnutrition chronique a des conséquences sur le plan du développement physique, mental et même sur la performance de l'individu.
Voilà. Alors, quelles sont les causes de la malnutrition chronique? Parce que nous en parlons maintenant. Peut-être que vous pouvez aussi expliquer aux auditeurs les causes de la malnutrition aiguë pour qu'ils aient une idée de comment peut-on parvenir à attraper cette malnutrition. D'abord, commençons par la malnutrition chronique qui est complètement concernée par cette émission.
Bon, en fait, par rapport à la malnutrition chronique, les causes sont de plusieurs niveaux. Nous avons ce qu'on appelle les causes immédiates, les causes sous-jacentes et les causes fondamentales. Alors, par rapport aux causes immédiates, nous avons la ration alimentaire qui est très, très faible. Et aussi, nous avons la présence des maladies. Donc ça, ce sont des causes immédiates. Et après les causes immédiates, nous avons les causes sous-jacentes. Et aux causes sous-jacentes, nous avons l'insécurité alimentaire. Et nous avons aussi les pratiques de soins aux mères et aux enfants qui sont inadéquates. Et nous avons aussi comme cause sous-jacente les mauvais accès aux services de santé. Et puis nous avons aussi comme cause les mauvaises hygiènes. Donc, tout ça constitue ce que nous appelons les causes sous-jacentes. Et en dehors des causes sous-jacentes, nous avons les causes fondamentales, donc qui sont des causes lointaines de la malnutrition. Et ces causes-là sont liées soit aux facteurs culturels, soit aux facteurs politiques, soit aux facteurs économiques. Donc, ça, ce sont des causes fondamentales. Donc, ce sont ces trois différents niveaux de causes qui provoquent la malnutrition. Et ce que nous devons savoir, lorsque cette malnutrition n'est pas traitée, ça peut aboutir à la mortalité.
Et dans les cas de malnutrition aiguë, c'est comment, quelles sont les causes pour la malnutrition aiguë?
Bon, pour la malnutrition aiguë, en fait, ce sont les mêmes causes, mais la différence est que la malnutrition aiguë survient souvent après un événement. Donc, ça peut être soit une famine,
la guerre, comme avec les déplacés de guerre.
Donc, et puis la maladie, c'est une épidémie de rougeole qui attaque les enfants et les enfants peuvent facilement déclencher la malnutrition aiguë. Parce que j'ai dit que c'est une malnutrition récente.
Là, on a compris avec les auditeurs, ils ont compris. Mais alors, par rapport aux signes, avant de terminer cette première partie, écoutez les auditeurs, qu'est-ce que dans le DK, quels sont les signes qui peuvent permettre même à un parent de pouvoir dire que mon enfant a la malnutrition. Avant même qu'il se rende, par exemple, à l'hôpital, y a-t-il moyen qu'un parent puisse se rendre compte que l'enfant a la malnutrition?
Bon, par rapport aux signes, les signes, en fait, apparaissent quand la malnutrition devient sévère. Là, les signes apparaissent. Donc, par exemple, vous pouvez voir l'enfant qui a des œdèmes, c'est-à-dire des gonflements des pieds. Donc, quand à ce moment-là, la maladie devient sévère, ou bien l'enfant peut être très, très maigre, ce que nous appelons les marasmes. Donc là, ce sont des signes qui apparaissent lorsque la malnutrition devient sévère. Mais aussi, on peut avoir la malnutrition modérée. Et la malnutrition modérée, parfois, ça passe inaperçu. Et pour qu'on puisse savoir réellement que l'enfant a la malnutrition ou pas, on doit prendre des mesures anthropométriques. C'est-à-dire, on va prendre le poids.
Et là, il faut aller à l'hôpital.
Oui, il faut aller à l'hôpital. Mais aussi, il y a des mesures anthropométriques qu'on peut prendre au niveau de la communauté.
Mm-hmm.
Parce que dans notre système de santé, avec la prise en charge de la malnutrition au niveau communautaire, un relais communautaire peut prendre certaines mesures anthropométriques dans la communauté, c'est-à-dire prendre les périmètres du bras.
Mm-hmm.
Donc, à partir de cette mesure, les relais communautaires peuvent savoir que non, cet enfant commence la malnutrition et on doit le référer au centre de santé.
Voilà.
Et aussi, les relais peuvent rechercher aussi les aidants au niveau des membres inférieurs de l'enfant.
Mmh. Alors, merci pour cette introduction et ces précisions par rapport à la malnutrition. On va se tourner vers les auditeurs Jean et Tisha Kinshasa. Jean, vous avez suivi l'introduction de notre invité. Vous avez des préoccupations, vous avez des contributions, mais aussi l'expérience que vous pouvez partager avec nous dans cette émission en ce qui concerne la malnutrition, ce qui s'est déjà passé dans votre milieu, mais aussi le point de vue que vous avez pour émettre tout cela. Et les bienvenus au 0-81-890-43-39.
Le Centre national de correction de l'examen des familles ouvre ses portes.
Ici, je suis au centre de diplôme avec vous. C'est la porte d'entrée de matières provenant des 30 provinces éducationnelles que compte notre pays.
De la réception des mâles au scannage, en passant par le dépliement des enveloppes, une grande équipe se mobilise pour la correction des items.
Je travaille avec 60 opérateurs, inspecteurs et agents réunis pour la tâche.
Pour en savoir plus, on se retrouve ce samedi 21 juillet à 15h sur Radio Capit.
Jean, vous êtes avec nous sur les antennes, bonjour.
Je m'en prie, bonjour Radio Capit, bonjour par aux auditeurs.
Vous avez suivi l'introduction de notre invité, il a pu expliquer d'une manière succincte en ce qui concerne la malnutrition, ce qui nous concerne. On vous écoute, Jean, votre point de vue, votre réaction, mais aussi votre préoccupation par rapport à ces dossiers consacrés à la malnutrition.
Ok, merci de m'avoir accordé la parole pour l'émission d'aujourd'hui. J'estime que le sujet que nous traitons aujourd'hui est aussi d'une importance capitale parce que ça touche le social de la population, sinon la population congolaise qui souffre surtout, à mon avis, de la malnutrition aiguë. Cela est dû aux multiples causes, c'est-à-dire que les conditions de nos parents actuellement ne vont pas, il y a du travail, ça affecte la famille et souvent les enfants sont victimes de cela. Alors, je ne voudrais pas vraiment m'attarder beaucoup là-dessus, mais sinon proposer quelque chose par rapport à la malnutrition chronique. Parce que, étant donné que cela a des conséquences tout au long de la vie d'une personne, c'est sûr peut-être que, partant du ministère de la Santé, on pouvait peut-être prendre des mesures nécessaires pour que les enfants, surtout, ne puissent pas tomber dans ces cas de la malnutrition chronique, puisque sinon ça affecte l'intelligence, ça affecte toute la santé de la femme, toute la vie ne serait pas bon. Alors, une proposition aussi, je voulais dire que dans notre pays, nous avons les options, telles que la nutrition ou les sections de nutrition, nous trouvons ça par exemple en Gili. L'école de lycée technique de Bomingo où il y a l'accès de la nutrition. Mais vous allez remarquer qu'il n'y a pas assez d'élèves. Or, dans cette option-là, on apprend, puisque tout un cycle de 3e à 6e, on apprend beaucoup de choses sur comment, disons, faire la nutrition. Mais, malheureusement, vous allez remarquer que ce sont des options qui sont vides. Or, si on pouvait favoriser, disons, envoyer aussi beaucoup d'élèves à cette option-là, j'estime qu'on pouvait, dans une certaine mesure, pallier à cette difficulté. Comment? En donnant par exemple des conférences. On peut inviter les sociologues de cette école, de passer, ou même à la télévision, et donner des conférences. Comment les gens peuvent modérer leur alimentation? Ça va aussi des problèmes de l'alimentation. Alors, je crois que si on multiplie sur ces options, on toujours veut faire la biochimie, la littéraire, si on a commercial, on peut aussi favoriser l'option de nutrition. Comme ça va aussi permettre à beaucoup de gens de connaître et de prévenir les dangers qui nous viennent surtout en cas de la malnutrition et chronique.
Merci Jean. Vous pensez qu'il faut Hein, il faudrait qu'on puisse avoir beaucoup d'écoles de formation des nutritionnistes. Il faut aussi encourager les gens à s'inscrire dans ces écoles, qu'on puisse en avoir beaucoup. Et puis, ça va permettre aussi qu'on ait beaucoup de gens qui maîtrisent bien le domaine de la malnutrition, qui peuvent s'inscrire dans la population et pouvoir sensibiliser la population par rapport à cela, qu'on investisse beaucoup dans la formation. Merci, Jean, de cette proposition. Il faut investir dans la formation. Théodore, vous êtes en Bouge-Marie au Casse-Oriental. Bonjour.
Bonjour, Pierre.
On vous écoute.
Mais je présente ma préoccupation en tant qu'observateur. Je me présente ici pour dire que je dois d'abord évoquer la pauvreté alimentaire. Le niveau de la situation nutritionnelle doit s'expliquer d'abord par la faible supplantation en vitamine A de routine, faible suivi de la croissance des enfants dans les centres de santé, l'absence de médicaments essentiels dans les centres de nutrition, et puis la prise en charge financière des coûts des enfants mal nutris, très sévère, sont transférés dans les hôpitaux généraux de référence. La province du Casa-Orientale réalise un taux d'insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans. La proportion de la population bénéficiant d'un nombre de repas par jour suffisant est estimée à 12%, dont par exemple 7% dans les milieux urbains, 15% en milieu rural. Alors pour moi, pour lutter contre cette malnutrition, il faut d'abord améliorer l'accès des populations aux soins de santé primaires, réhabiliter les infrastructures sanitaires et renforcer les capacités du personnel de santé, faire aussi un rapprochement des centres de santé à des zones d'habitation, faire aussi un contrôle de la circulation et consommation des produits pharmaceutiques. Et pour terminer, faut lutter aussi contre la mortalité infantile qui constitue un problème de santé publique dans la province du Casa-Orientale. Dans la plupart des cas, c'est la malnutrition.
Merci. Merci beaucoup, Théodore. On a suivi, vous avez bien maîtrisé d'ailleurs le paramètre de ces rapports avec des chiffres. Vous avez dit qu'il y a un problème d'abord d'un déficit en supplémentation, n'est-ce pas, des supplémentations en vitamine A. Mais il y a aussi ces problèmes de coût des prises en charge très élevées des enfants malnutris. Et vous avez proposé le renforcement des capacités des prestataires de santé, la mutualité des centres de santé, mais aussi disponibiliser le produit de base hein, qui peuvent faciliter la prise en charge des enfants qui sont mal nourris. Ça, c'est par rapport à la malnutrition dès qu'elle s'est déjà déclenchée dans votre milieu. C'est par rapport au bougement au Casa Oriental dans le Bandundu. Nous avons Malon Gakoubali qui nous écoute. Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour, monsieur Pedro.
On vous écoute. Oui, Malon, vous êtes avec nous, on vous écoute.
Ok, ça va, merci de m'accorder la parole. Bon, moi, je veux dire, dans notre sujet ridicule, si nous ridiculisons, nous, les responsables ou bien les parents. Moi, dans la période passée, c'est pas moi qui ai fait ces procédures de bien encadrer la famille. Alors, mais aujourd'hui, ce qui me fait
sourire. Oui, Malonga, on a des petits soucis avec votre ligne. Essayez de vous déplacer un tout petit peu, peut-être que ça pourra améliorer la qualité de la communication. Le temps d'écouter Cicéron qui est à Lubumbashi au Katanga. Bonjour, Cicéron.
Bonjour, monsieur le journaliste.
J'ai
une petite préoccupation tant au sujet du jour.
Allez-y.
J'aimerais demander à l'invité, j'ai un enfant d'au moins 4 à 5 ans. Alors, j'ai des inquiétudes quant à sa santé, puisque sa santé est un peu maigre. Alors, je voudrais savoir les coordonnées que nous a donné l'âge et le poids. Pour un enfant de cet âge-là, il doit avoir combien, au maximum, combien de kilos, son poids est. Donc, c'est ça donc mon souci, puisque je m'inquiète de sa santé malgré les visites médicales.
Merci, Cicéron. Vous avez un enfant dont l'âge varie entre 4 et 5 ans, et l'enfant est maigre. Je voulais savoir, avec notre invité, quel doit être le poids idéal d'un enfant de 4 à 5 ans. Merci beaucoup. Nous avons Marcel qui est à Kisangani en province orientale. Bonjour, Marcel.
Ah, bonjour, Radio Capier. Bonjour à tous.
On vous écoute, Marcel.
Ok, merci. Je crois que ça, c'est une question à une importance. Par regardant comment des enfants souffrent aujourd'hui de la malnutrition et surtout ça donne souvent de la peur aux parents. Mais je voudrais d'abord préciser que ces facteurs concourent à la malnutrition, entre autres. Et pour partager la responsabilité, il y a d'abord la responsabilité des parents, de l'État, puis de l'environnement. D'abord, à ce qui concerne les parents, la plupart des parents ne veulent pas assister ou entretenir l'environnement. Et surtout en faisant ou en pratiquant la culture pour pouvoir tenir besoin de leurs enfants. Puisque aujourd'hui, avec le phénomène de l'exode rural, ça occasionne souvent la malnutrition. Et quant à ce qui concerne le cas, l'État, en regardant aussi ce qui est au secteur ou au social du peuple congolais, c'est tellement insuffisant, puisque aujourd'hui, la moitié 5 Congolais par jour, Paris, entre 225 francs et 230 francs Congolais par jour. Et avec ces mouvements, je ne pense pas que les 5 Congolais peuvent arriver à se nourrir des enfants ou un parent en fait. Donc, pour combattre ces phénomènes, je crois, comme l'ont précisé mes prédécesseurs, il faudrait d'abord que les cas Congolais parviennent à entretenir de centres sanitaires existants et c'est là dans tout le village et aussi en ville puisque ce phénomène ne se pose pas seulement au village, même en ville, nous en avons aussi. Et c'est là puisque l'accès aux santé n'est pas donné à tout le monde pour certains parents. Le problème se pose et pour d'autres, ils n'en ont pas assez.
Voilà, merci Marcel. On a suivi, vous avez dit qu'il faut d'abord sensibiliser les parents, ils doivent s'intéresser à l'agriculture, hein, même à l'agriculture de proximité. L'État doit allouer un budget conséquent au social de la population pour permettre aux gens de se nourrir suffisamment, mais il faut aussi mettre à la disposition de la population les infrastructures de base, hein, les infrastructures médicales de base qui peuvent permettre aux gens de se faire soigner, de se faire détecter quand il y a des problèmes. Radia Bouki et Takindou et Clarisse qui est ici à Kinshasa, vous allez garder la ligne, on va revenir à vous le temps de pouvoir écouter notre invité pour répondre à ses premières préoccupations et compléter les interventions des auditeurs. Radia Bouki et Clarisse, gardez la ligne, on va vous accorder la parole.
Parole aux auditeurs par internet ca@radiookapi.net. Parole aux auditeurs Piero Lamy.
Merci Simondo, vous avez suivi les auditeurs. Hein. Il y a notre ami de Kinshasa Jean qui a parlé du programme au niveau du ministère de la Santé, des mesures qu'il faut prendre. Mais il a beaucoup insisté sur la formation. Il y a beaucoup de gens qui font les écoles de nutrition qui peuvent aller dans la population pour sensibiliser. Mais il y a Théodore Dumbujimaï qui a parlé du problème de supplémentation en vitamine A, mais les coûts de prise en charge des enfants malnutris. Il a évoqué cela. Il y a notre ami de Lubumbashi qui a posé la question de savoir le poids idéal pour un enfant de 4 à 5 ans. Et Marcel de Kisangani qui venait aussi d'insister sur la sensibilisation des parents par rapport à la pratique de l'agriculture, mais aussi les infrastructures de base qui doivent être équipées. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en gros? Mais par rapport à ces préoccupations, c'est tout ce qui se passe au niveau du programme national de nutrition.
Merci beaucoup. Et pour ces préoccupations. D'abord, par rapport à la formation en nutrition, bon, l'auditeur a raison. Il a raison de dire que la nutrition qui est une option très très importante, mais ça n'entraîne pas un engouement auprès de la jeunesse. Moi, je pense que cette interpellation, ça nous concerne. Et moi, du ministère de la Santé, et vous, du média. Parce que, en fait, nous devons conjuguer nos efforts pour sensibiliser la population à connaître l'importance de cette option nutrition. Donc, en tout cas, nous encaissons et nous allons faire un effort pour que la population puisse connaître la section nutrition qui est très très importante qui n'est pas la plus importante, mais qui est quand même importante, parce que le pays a des problèmes de nutritionnels, et qu'il faut quand même des experts en nutrition, à différents niveaux, c'est important. Donc, il faut qu'on fasse une sensibilisation pour que les gens comprennent l'importance de l'option nutrition. Alors, en ce qui concerne l'autre question, par rapport à faible supplémentation de vitamine A, et puis le coût de la prise en charge.
Oui, quand les parents qui amènent les enfants malnutris dans les hôpitaux, ils se rendent compte qu'en Bougemaille, parce qu'il a parlé d'un Bougemaille, ils n'ont pas la possibilité, parce que c'est pas facile de faire soigner son enfant dans cet état-là. Et c'est aussi un problème.
Bon, en fait, peut-être les problèmes peuvent se poser au niveau des intrants de la nutrition. Parce que quand un enfant est mal nourri, surtout s'il souffre de la malnutrition aiguë sévère ou la malnutrition aiguë modérée, en principe, cet enfant, on doit l'amener dans une structure de santé où on fait la prise en charge de la malnutrition aiguë. Et normalement, la coordination provinciale de la nutrition a pour mission de doter les structures de santé en intrants de nutrition. Donc, les intrants de nutrition, c'est les plimpinates. Les plimpinates, c'est un produit à base d'arachide qu'on donne aux enfants mal nourris sévères sans complications. Et aussi, les enfants qui ont la malnutrition avec complications médicales, c'est là on les réfère à l'hôpital où on leur donne le lait thérapeutique et aussi on essaie un peu de soigner aussi les complications médicales. Bon, ce qui est vrai est que notre partenaire UNICEF fait quand même un effort pour doter les coordinations provinciales de nutrition en intrants de nutrition. Et ces intrants-là, dès qu'ils sont disponibles au niveau des structures de santé, en tout cas, nous les donnons gratuitement. Donc, ça ne nécessite pas un coût. Et d'ailleurs, même ce que nous recommandons dans la politique nationale de nutrition est que les cas de malnutrition puissent être soignés gratuitement. Parce que la plupart des familles qui ont des enfants mal nourris sont des familles là démunies.
Ils n'ont pas d'abord assez de moyens et ça sera difficile pour eux de supporter encore le coût du traitement.
Oui. Alors c'est comme ça que nous demandons souvent aux partenaires, à nos partenaires qui travaillent dans les domaines de la nutrition, d'appuyer les zones de santé et pour que la mise en œuvre de la prise en charge de la malnutrition aiguë soit vraiment effective. Parce que sans l'appui des partenaires, c'est un peu difficile pour que les intrants de nutrition soient disponibles dans tous les territoires nationaux.
Il y a cet auditeur qui a un enfant qui a entre 4 et 5 ans qui s'inquiète par rapport à son état de santé, mais il voulait savoir le poids idéal pour un enfant de cet âge-là.
Bon, c'est une bonne question, mais nous en nutrition, nous ne prenons pas les variables de manière isolée. Quand vous prenez seulement le poids de l'enfant ou vous prenez seulement la taille de l'enfant, ça ne veut rien dire. Donc, on doit associer le poids de l'enfant à sa taille. Donc, moi, ce que je conseillerais à cet auditeur, c'est d'amener son enfant dans un centre de santé où on fait la prise en charge de la malnutrition. Et là, les prestataires sont vraiment formés à la matière et on va prendre les mesures anthropométriques de l'enfant, c'est-à-dire on prend le poids, on prend la taille. Et par rapport à ces deux variables, on saura dire aux parents est-ce que son enfant a un bon état nutritionnel ou il a un mauvais état nutritionnel. Donc, on ne doit pas seulement se focaliser sur le poids.
Et avant d'écouter d'autres auditeurs comme Radabou, Clarisse et Nadège, qui est en Bougimaille, il y a cette préoccupation de Marcel, c'est par rapport à la sensibilisation. Mais au niveau du programme national de nutrition, y a-t-il des mesures que vous prenez en amont? Parce que nous avons parlé des enfants qui viennent déjà à l'hôpital, ils ont la malnutrition, mais est-ce qu'il y a des actions qui se font auprès des communautés en amont avant que la malnutrition se déclenche? Quelles sont ces actions peut-être au niveau du programme?
Oui, bon, il y a des actions qui sont préconisées. Parce que les programmes nationaux de nutrition, en fait, sa mission, c'est d'élaborer des normes. Et ce sont ces normes qui sont appliquées au niveau des provinces. Alors, nous avons quand même des actions que nous conseillons pour quand même prévenir la malnutrition. Et ces actions, nous les appelons actions essentielles à la nutrition. Alors, par rapport à la malnutrition, je prends seulement deux actions. Et ces actions-là, d'abord, c'est l'allaitement maternel optimal, et puis l'alimentation complémentaire adéquate. Et quand je parle de l'allaitement maternel optimal, il y a trois composantes. La première composante, c'est quoi? C'est l'allaitement du nouveau-né dans l'air qui suit l'accouchement. Donc, une femme qui accouche dans une maternité, elle doit mettre son enfant au sein dans l'heure qui suit l'accouchement. Ça, c'est la première action que nous préconisons. Parce que, vous savez, monsieur le journaliste, quand l'enfant vient au monde, d'abord, il a besoin du contact avec sa mère. Et l'enfant va commencer à téter. Et le premier lait que l'enfant va prendre, ce lait-là, nous, on appelle ça colostrum. Et ce lait est très nourrissant. Ce lait est riche en anticorps. Et c'est ce qui va immuniser même l'enfant hein, lorsqu'il est à la maternité. Et ce lait-là, ce n'est pas autre chose. Et c'est lait maternel, cet allaitement maternel, la lait qui suit l'accouchement, il est aussi bénéfique pour la mère. Parce que ça réduit les risques d'hémorragie post-partum, c'est-à-dire l'hémorragie après l'accouchement. Donc, voilà un peu les avantages que la maman peut tirer lorsqu'elle met son enfant au sein dans l'air qui suit l'accouchement. Alors, la deuxième action par rapport à l'allaitement maternel optimal, c'est l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. Donc, dès la naissance jusqu'à 6 mois, l'enfant ne prendra pas autre chose
que
le lait maternel. Donc, on ne peut pas lui donner de l'eau, on ne peut pas lui donner des bouillies pendant les 6 premiers mois, parce que le lait maternel est un aliment complet et cet aliment contient tous les nutriments dont l'enfant a besoin pour sa croissance et son développement.
Voilà. Et la troisième action?
La troisième action, c'est par rapport à l'allaitement maternel optimal, c'est l'allaitement continu. C'est-à-dire, même jusqu'à 6 mois. Après 6 mois, la mère doit continuer à donner le lait maternel à son enfant.
Dans le même, on aurait ajouté la bouillie, d'autres choses, voilà.
Jusqu'à l'âge de 2 ans ou plus. Donc l'allaitement maternel, dans l'air qui suit l'accouchement, l'allaitement maternel exclusif, et puis l'allaitement continu, c'est ce que nous appelons allaitement optimal.
Voilà.
Et après l'allaitement optimal, nous avons l'alimentation complémentaire adéquate. Donc à 6 mois, le lait maternel n'arrive plus à satisfaire les besoins nutritionnels de l'enfant. Donc, on doit ajouter des aliments, des compléments. Donc, à partir de 6 mois. Mais il y a des principes qu'on doit respecter par rapport à l'alimentation des compléments. Et généralement, nos mamans ne respectent pas ces principes-là par rapport à l'alimentation des compléments.
Nous allons écouter les trois auditeurs qui sont en ligne directement avec Radjabou qui est à Kindou. Radjabou, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Vous êtes les auditeurs de la radio de la paix.
Oui, on vous écoute, Radjabou.
Monsieur le journaliste, voilà un autre problème qui inquiète, mais dont nous, les Congolais, on ne s'inquiète pas. Monsieur le journaliste, moi, il y a des fois que ça me fait honte. Quand je vois autour de moi les enfants mal nutris, 19% kilos, 38% au niveau national, la honte, c'est parce qu'il est dit que celui qui ne sait pas pourvoir aux besoins des siens est pire qu'un méchant. Parmi les siens, notamment les enfants. C'est pourquoi les responsabilités sont partagées entre familles, ONGD et surtout l'État congolais et les journalistes. Toutes ces trois catégories citées ci-haut sont pires qu'un méchant. Dans le sens que ONGD, par exemple, donne souvent de l'aide. De quelle qualité? De quelle qualité? Au lieu d'apprendre, au lieu de prendre aux Congolais, à comment se prendre en charge. Parce que la grande pauvreté de nos populations congolaises, c'est dans la pensée. Et non par ailleurs, monsieur le journaliste. Par exemple, famille constituée précocement. Ce soit sans parents abusés de leur charge en tant que parents. Ils peuvent travailler, mais pour quel salaire? Et l'État est plus responsable, car un enfant mal, un enfant mal, un Congo sans avenir radieux, monsieur le journaliste. C'est pourquoi je vais proposer ceci. L'État congolais doit produire et non importer. Doit produire à manger pour ses enfants et non importer ou bien attendre que l'aide nous vienne des étrangers. Cela est pour ça et cela est pour sa gloire. Pacifier les zones de production. Pacifier les zones de production. C'est ça le fait que j'avais à vous.
Merci. Merci, Radiabou. Vous avez dit qu'il faut que l'État puisse produire au lieu d'importer les denrées alimentaires, mais il faut aussi pacifier les zones de production comme les Routourou, les Massissi, les Nord, les Sud-Kivu, les endroits où on peut avoir ces haricots, cette pomme de terre, autant de choses qui peuvent être produites dans ces zones. Il faut que ces zones soient pacifiées pour qu'ils puissent assez travailler pour produire. Et cela peut nous aider à agir en amont contre la malnutrition. Merci beaucoup, Radiabou de Kindou. Nous avons ici à Kinshasa Clarisse qui est avec nous. Bonjour, madame.
Bonjour, monsieur.
Et ça fait plaisir d'avoir une dame sur les antennes parce que tout à l'heure, votre invité venait de dire qu'elle est maman néglige en ce qui concerne l'alimentation adéquate. On vous écoute, madame. Pour vous, en tant que femme, qu'est-ce qui doit être fait pour lutter efficacement contre la malnutrition?
Bon, moi, j'ai une préoccupation qui me dérange toujours ici chez nous.
Mm-hmm.
Je vois comme notre invité est nutritionniste. Je voulais savoir, il y a des mamans qui nourrissent leurs enfants. Ils préparent, ils prennent des biscuits, ils achètent des biscuits, ils préparent pour les enfants. J'aimerais savoir, le biscuit là que les mamans préparent pour les enfants, est-ce que ça contribue vraiment à leur santé, ça contribue vraiment à leur développement? Je ne sais pas, parce qu'on a toujours vu qu'on a problème de l'argent dans notre société, il y a des problèmes de souci de la pauvreté. J'aimerais savoir si le biscuit que les mamans préparent pour le bébé, jusqu'à ce qu'ils vont commencer à manger, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça contribue dans leur santé. Parce qu'on ne peut pas faire ça, parce qu'on a un problème de l'argent, on ne peut pas acheter les céréales pour les enfants, ça coûte un peu cher, les phosphatines, tout qu'on sort. Donc j'aimerais juste savoir qu'ils puissent un peu nous rassurer, qu'est-ce que ça rapporte dans la santé des enfants, si les enfants se nourrissent de biscuits que les mamans préparent pour eux.
Merci Clarisse. Votre inquiétude, c'est par rapport aux biscuits, hein. On achète les biscuits au marché, on écrase, on fait une bouillie des biscuits qu'on donne aux enfants. Vous voulez être assuré si ces biscuits peuvent contribuer, n'est-ce pas, à la croissance de l'enfant. Avec le coût de vie, hein, qui est difficile, on ne sait pas s'acheter le bouillie qui est importé, qui sont dans les magasins. L'industrie a bien noté votre question. Nous avons Nadège qui est en Boujimaï. Bonjour Nadège. Nadège, vous êtes avec nous, bonjour. Voilà, on a perdu Nadège, peut-être qu'on pourra la récupérer. Les nutritionnistes et nous appeler de Mboujmaï au Cap Oriental. Nous avons Greg qui est à Boutembo, dans la province du Nord Kivu. Bonjour Greg.
Bonjour Radio Okapi, bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute, monsieur.
Oui. Le problème de la nutrition que nous sommes en train de vivre, qui est ici chez nous au Nord Kivu, c'est un problème qui est lié aussi principalement aux affrontements qui se vivent dans cette partie de la République.
Mmh.
Et surtout que l'Est de la République, c'est vraiment la partie qui renferme beaucoup de terres arables. Et étant donné que ces terres-là sont occupées par des milices et combattants, la population locale n'arrive pas, bien sûr, à cultiver ces terres pour essayer au moins de mettre à la portée de tout le monde une nourriture fraîche et juste, bien sûr, nous faisons dans cette nutrition.
Voilà, merci Greg, vous inquiétez hein, de l'insécurité persistante, n'est-ce pas, persistante plutôt dans à l'est du pays. On sait bien que l'est a ses terres qui sont très fertiles, mais on ne peut pas cultiver dans l'état où il y a des affrontements. C'est qu'il y a la base de la malnutrition. Merci beaucoup de cette intervention. Nous avons Gauthier qui est ici à Kinshasa, dans la capitale. Bonjour Gauthier.
Bonjour Pierrot.
On vous écoute par rapport à la lutte contre la malnutrition.
Oui, moi, je pense que la malnutrition est causée d'abord par les dirigeants congolais. Et puis, par les fonctionnaires, qui commencent même aujourd'hui à chasser nos mamans qui sont en cours de route. Et je ne sais pas s'ils pensent quoi faire après. Mais ils se réjouissent parce qu'ils mangent bien. Mais ils ne prennent pas soin de la pauvre population qui est en train de souffrir dans les milieux.
Voilà. Pour vous, la malnutrition, c'est un problème d'abord au niveau des choix des dirigeants hein, sur le plan politique. Vous avez évoqué le fait qu'on puisse chasser les mamans qui vendent le long des routes, tout ça, mais après, quand elles ne savent pas vendre, elles ne savent pas nourrir leur famille. 081-890-4339, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission consacrée, bien sûr, à la malnutrition.
Parole aux auditeurs, Pierrot et Amélie.
Narcisse Tumbondo, vous avez suivi les auditeurs. Il y a Clarisse qui a posé la question de savoir si ces biscuits, la bouillie à base de biscuits qu'on donne aux enfants peut être utile pour leur organisme, tout ça. Il y a un ami qui a insisté beaucoup plus par rapport à la réalité des uns et des autres. Mais est-ce que dans la lutte contre la malnutrition au niveau du programme, vous y allez seul ou vous y allez en partenariat avec d'autres ministères, par exemple? Parce qu'il n'y a pas seulement le ministère de la Santé, il y a le ministère de l'Agriculture, il y a le ministère de l'Agriculture, on prend pêche et élevage, il y a le ministère de l'Environnement, parce qu'on a parlé de l'environnement, tous ces problèmes. Y a-t-il des actions conjointes entre en synergie pour lutter contre la malnutrition?
Merci beaucoup. D'abord, je réponds à Clarisse. Et nous, en nutrition, nous déconseillons à ce qu'on puisse donner aux enfants des bouillies à base de biscuits. D'abord, les biscuits, c'est un aliment très, très sucré. Or, l'enfant n'en a pas besoin. Et ce que nous conseillons à nos mamans, de donner à leurs enfants des bouillies à base des aliments locaux. Je prends l'exemple du maïs. Si on peut préparer la bouillie de l'enfant à base de maïs, je vois qu'on rendrait beaucoup de services à nos enfants. Et qu'à cette bouillie-là, à ce maïs, on peut ajouter même du soja. Il y en a ici dans nos marchés. On peut ajouter même la pâte d'arachide. Il y en a aussi dans nos marchés. Donc, nous, on conseille des aliments qui sont disponibles sur le plan local. Mais on ne conseille pas des aliments comme les biscuits qui ne vont rien apporter à l'enfant. Et surtout que c'est un aliment trop sucré et qui sera même nuisible à la santé de l'enfant.
Voilà, je pense que Clarisse a bien suivi cette réponse avec beaucoup de précision d'ailleurs.
Alors, par rapport à la question que vous venez de me poser, évidemment c'est vrai, la nutrition, en fait, les problèmes de lutte contre la malnutrition, c'est un problème multisectoriel. C'est un problème multisectoriel, ça nous sommes conscients, parce que le pronomiste à lui seul ne sera pas trouvé des solutions pour les problèmes de malnutrition. Et je voudrais vous dire que présentement, nous sommes en train d'élaborer un plan d'action multisectoriel. Et dans ce plan d'action, on aura besoin du concours des autres secteurs. On aura besoin des gens de l'économie, des gens de l'environnement, des gens de l'agriculture, des gens du développement rural. Et tout le monde doit apporter sa contribution pour élaborer ce plan d'action de lutte contre la malnutrition pour notre pays. Donc, nous travaillons en collaboration avec les autres ministères. Et d'ailleurs, quand vous voyez même ce rapport ici, c'est un rapport où le fournaniste est intervenu pour l'élaboration. Et aussi les autres ministères, par exemple l'Institut national des statistiques. Nous travaillons aussi avec les amis de l'agriculture, surtout par rapport au problème de sécurité alimentaire. Donc, on ne travaille pas seul, on ne travaille pas vase clos, mais on est ouvert avec les autres ministères qui concourent dans la lutte contre la malnutrition.
Mais parce que vous avez évoqué la responsabilité des mamans, des parents, des fois qui négligent, parce qu'on a parlé d'une alimentation adéquate, mais il y a ce problème du pouvoir d'achat. Mais est-ce qu'au niveau du programme, y a-t-il des séances, par exemple, que ce soit en province, que ce soit partout, où on peut dire aux parents, présenter ce qui peut être à moindre coût, mais qui peut être très utile pour l'organisme. Parce que le problème aussi, on pense que c'est quand on se réveille le matin avec beaucoup de choses à la table, on a des œufs, on a des fromages, on a des ceci, cela, on peut être en bonne santé, mais les gens n'ont pas la possibilité de pouvoir s'acheter ces choses. Y a-t-il des techniques qui permettent à ce que les parents, la population, puissent savoir qu'est-ce qui peut nourrir l'enfant, mais qui peut être trouvé dans son environnement à un moindre coût?
Justement, je pense que je commençais déjà à en parler quand je répondais à l'auditrice qui m'a posé la question par rapport à la bouillie de biscuits.
Oui.
Et je pourrais aussi dire que normalement, un enfant, pour se nourrir, on n'a pas à lui donner, on n'a même pas besoin de la phosphatine, tous ces produits-là importés. Parce que dans notre environnement, il y a des aliments qu'on peut trouver et qui peuvent être utiles pour nos enfants. J'ai cité le maïs, la farine de maïs, la famille peut s'en procurer. Quand j'ai parlé de quoi de
je soja, parle,
du soja,
des arachides,
l'arachide,
nous avons les printemps, toutes les
histoires, oui,
voilà,
les chenilles,
voilà.
Donc ce sont des aliments, même quelqu'un qui n'a pas assez de ressources, mais il peut s'en procurer pour nourrir son enfant. Mais le problème seulement est que les gens ignorent certains principes dont j'ai parlé tout à l'heure à propos de l'alimentation complémentaire. La fréquence des repas. Quand l'enfant a déjà plus de 6 mois, est-ce qu'il faut lui donner un repas par jour? Non. Il faut lui donner au moins 2 à 3 repas par jour, même sous forme de bouillie. Ça, les gens ne connaissent pas. Et puis, la consistance même de la bouillie. Parce que généralement chez nous, l'enfant à 6 mois, on lui donne même du coucou de la chicoa. Alors que l'estomac de l'enfant n'est pas encore apte à recevoir ce genre d'aliments. Donc la consistance aussi. Donc on doit commencer par des aliments qui ont, par exemple, des bouillies semi-liquides. Et au fur et à mesure que l'enfant est en train de grandir, on augmente la consistance de la bouillie de l'enfant. Et après la consistance, nous avons aussi la quantité à donner. Quelle quantité de repas on donne à l'enfant qui a moins de 2 ans? Et puis, à part la quantité, est-ce que nous respectons les règles d'hygiène quand nous préparons le repas de l'enfant? Est-ce qu'on respecte les règles d'hygiène?
Voilà.
On doit les respecter. Parce que si on ne les respecte pas, ces aliments-là vont apporter des microbes à l'enfant. Et ces microbes-là vont provoquer des maladies. Et aussi, il y a aussi un autre aspect. Il y a ce que nous appelons l'alimentation active. C'est-à-dire que quand on prépare la nourriture pour l'enfant, surtout quand l'enfant a moins de 2 ans, il faudrait que la maman elle-même puisse donner cette nourriture à l'enfant. Or, généralement, qu'est-ce que nous constatons? Même si la maman est là, elle demande à un autre enfant, beaucoup plus grand que le premier, de donner le repas à l'enfant. Or, vous savez que entre 6 mois et 2 ans, les enfants sont difficiles pour manger. Il faudrait que la maman soit là pour encourager l'enfant à manger, à terminer son repas. C'est ce que nous appelons l'alimentation active. C'est-à-dire encourager l'enfant à manger. Parce que, monsieur le journaliste, pendant cette période, les enfants sont très capricieux, les mamans le savent. Donc, il faudrait respecter tous ces principes pour que l'alimentation complémentaire de l'enfant qui commence à partir de 6 mois puisse être adéquate. Lorsqu'on ne respecte pas tous ces principes, eh bien, nous allons toujours tomber dans ces problèmes de malnutrition. Voilà ce que je voulais ajouter comme un complément d'information.
Voilà, nous avons Fiston qui est acquis sans gagner en province orientale. On tend vers la fin de cette émission 081-890-43-39. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Le Centre national de correction de l'examen d'État du jour pour cette force.
Ici, je suis au centre de climat avec vous. C'est la porte d'entrée de matières provenant des 30 provinces éducationnelles que compte notre pays.
De la réception des mâles au scannage, en passant par le dépliement des enveloppes, une grande équipe se mobilise pour la correction des items.
Je travaille avec 60 opérateurs, inspecteurs et agents réunis pour la tâche.
Pour en savoir plus, on se retrouve ce samedi 21 juillet à 15h sur Radio Capitale.
Nous avons Fiston qui est à Kisangani. Bonjour Fiston.
Bonjour, bonjour Radio Tati.
On vous écoute Fiston, vous avez suivi plusieurs interventions, aussi les explications de notre invité. On vous écoute.
Oui, juste je veux en premier lieu m'intéresser au pourcentage publié par nos confrères des ONG. J'espère que le résultat là, du pourcentage est un peu non fiable parce que en RDC, on ne connaît nul le nombre des enfants de moins de 5 ans. Même à Kinshasa, si on voulait leur demander combien d'enfants de moins de 5 ans nous avons ici en notre pays, ils ne seront pas en mesure de nous donner ce nombre-là. C'est pourquoi les résultats qui figurent sont un peu, si on peut dire, erronés, puisque ça peut être aussi supérieur à ce qu'ils ont donné ou encore inférieur à ce qu'ils donneront. Ça, c'est pour le pourcentage. Mais pour lutter contre la malnutrition de nos enfants de moins de 5 ans, c'est un problème vraiment mieux. C'est vrai qu'on vient de dire, mes confrères, on devrait normalement s'attaquer à tous les ministères. Pas seulement l'agriculture ou le ministère de la Santé. On devrait s'attaquer à tous les ministères, voir comment on peut orienter le programme d'alimentation dans notre pays. L'économie est un peu précaire, même les produits agricoles. Il y a des produits qui sont les produits agricoles produits dans différents villages ou cités qui ne sont pas évacués pour la simple raison qu'il n'y a pas de route. Mmh. Il y a même l'information.
Oui.
On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut donner à l'enfant.
Mmh.
Il donne à l'enfant ce qu'il veut, à n'importe quand. Et cela contribue justement à la mauvaise santé.
Oui, voilà, merci. Merci, merci beaucoup. Merci, Fiston. Merci beaucoup, Fiston. D'ailleurs, vous avez évoqué les résultats de l'enquête. Je vous informe que juste après la publication, n'est-ce pas, de cette enquête, Parole aux auditeurs avait fait une émission spéciale où nous avions reçu un délégué de l'UNICEF et celui de l'Institut des statistiques qui ont expliqué aux auditeurs comment on a amené cette enquête et les résultats. Tout cela a été expliqué clairement. Les gens avaient posé des questions sur toutes les marges d'erreur qu'on peut avoir dans une enquête. Ils avaient expliqué ça au cours de l'émission Parole aux auditeurs. Nous avons Eddy qui est à Goma, c'est dans la province du Nord Kivu. Bonjour Eddy. Oui, Eddy, vous êtes sur les antennes, apparemment vous êtes distrait. On a qu'une minute pour vous, Eddy, si vous nous écoutez, pour intervenir dans cette émission. Eddy, vous êtes apparemment distrait. J'ai dit que si vous n'avez que 45 secondes pour donner votre point de vue dans cette émission, Eddy.
Excusez-moi de même. Voilà,
on a des petits soucis avec vous et Eddy, vous êtes apparemment distrait sur les antennes. On va terminer l'émission avec vous, bravo, vous êtes à Guémena, dans la province de l'Équateur. Bonjour, bravo.
Bonjour Pierrot et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Oui, en 45 secondes, votre point de vue par rapport à la lutte contre la malnutrition.
Merci beaucoup.
Et là aussi, il y a...
Oui. La population de la République démocratique du Congo, monsieur le journaliste, question bien, le problème de la malnutrition va d'abord de l'information à la sensibilisation des salariés. J'aimerais bien poser la question aux salariés qui puissent nous aider pour que les enfants se tirent sur pied. Au lieu de créer une opportunité à toutes les affaires, à des ONG, le campagne de créer le centre de malnutrition, l'État lui-même dans ce pays. Alors je voudrais poser la question, quelles sont les modalités pour que une HBN puisse créer un centre, un type de centre de malnutrition pour nous, les enfants la mal nourris. Parce que si on attend, la statistique augmente, monsieur le journaliste.
Merci et bravo. Vous avez dit que le problème doit être pris dans la globalité de l'information à la sensibilisation. Mais la question que je vais poser à notre invité est de savoir s'il y a-t-il des modalités pour qu'une organisation locale dans la communauté puisse créer un centre de nutrition. On vous écoute, monsieur Narcisse Kimbondo, et ça va aussi vous donner l'occasion de pouvoir conclure cette émission en répondant bien sûr à ces dernières préoccupations. Nous avons là une minute et demie pour vous écouter et aussi conclure cette émission sur la lutte contre la malnutrition.
Bon, j'ai la réponse que je peux donner à notre auditeur est que dans notre politique sanitaire, nous, on n'encourage pas à ce qu'une ONG puisse créer un centre nutritionnel. Mais ce que nous encourageons, c'est l'intégration des activités de nutrition dans les centres de santé existants. Donc, c'est l'intégration. Donc, au lieu de créer des centres parallèles, tout ça, mais si une ONG
doit être intégrée dans un centre de santé.
Donc, les activités de nutrition doivent être intégrées dans un centre de santé. C'est ce que nous encourageons. Donc, s'il y a une ONG qui a des moyens pour appuyer l'activité, que cela aille appuyer l'activité dans un centre de santé existant au lieu de créer un centre de santé parallèle. Mmh. Parce que notre souci est que les cas de malnutrition puissent être pris en charge au niveau du centre de santé comme n'importe quelle maladie. Donc, comme on soigne le paludisme, la tuberculose, il faudrait aussi que la malnutrition soit soignée de la même façon.
Mm-hmm.
Voilà notre vision au niveau du ministère de la Santé.
Mais après avoir publié cette enquête, ces résultats, vous avez été associé. Y a-t-il eu des mesures particulières par rapport à ce pourcentage que nous avons pour voir dans l'avenir ce pourcentage des enfants qui souffrent des croissances
bien sûr, pondérale, diminuée à travers le pays. Y a-t-il des mesures assez particulières?
Oui, je crois que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure ici. Quand j'ai parlé de l'allaitement maternel optimal, en fait, ce sont des mesures de prévention de la malnutrition et de la malnutrition chronique. Et aussi, nous, ce que nous recommandons aussi, c'est qu'on puisse arriver à améliorer la nutrition de la femme. Parce que, monsieur le journaliste, ce que vous devez savoir, les problèmes de malnutrition se posent généralement pendant la grossesse et dans les deux premières années.
Voilà.
Et lorsque l'enfant fait la malnutrition pendant cette période-là, en tout cas, cette malnutrition sera irréversible. C'est-à-dire que ça va provoquer des séquelles qu'on ne saura même pas réparer. Donc c'est comme ça que notre effort doit être centré auprès de la femme enceinte et auprès de l'enfant des premières années.
Merci bien, merci messieurs, merci Sekimbondo d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes nutritionniste au Centre national, au Programme national de nutrition pour la nutrition. On va se retrouver le lundi prochain, changement à la tête de la Commission de l'Union africaine. C'est depuis le dimanche 15 juillet dernier que Mme Nkosazana Dlamini Zuma a été élue présidente de cette commission en remplacement du Gabonais Jean Ping. Ce changement intervient pendant que la RDC est confrontée à une insécurité grandissante dans sa partie Est. Vous, auditeurs de Radio Capi, qu'attendez-vous de cette nouvelle présidente de la Commission de l'Union africaine? Merci à J.R. Ngembo, Jean-Noël Mokondo et Titi Poutou pour la réalisation de cette émission, supervisée par Nicole Ngaka. Toute l'équipe vous souhaite un agréable week-end en compagnie de Radio Capi. Au revoir.